France Inter.
France Inter. Le 18-20.
Blanc. Chaque mardi, Caroline, vous ouvrez une porte qui nous emmène dans le cœur du réacteur européen. Et ce soir, on retrouve quelqu'un qu'on connaît déjà un peu. Vous continuez à l'exploration du monde des lobbies à Bruxelles et des institutions ou organismes qui tentent d'encadrer les liens entre public et privé.
Oui, on en a pas mal entendu parler ces derniers jours avec les révélations sur les nombreux contrats signés par Rachida Dati avec des boîtes privées quand elle était eurodéputée. Et aujourd'hui encore, on a appris l'arrestation d'un député européen AfD, l'extrême droite allemande, accusé d'avoir fait de l'espionnage pour la Chine. J'ai rencontré Raphaël Kergueno qui travaille pour l'ONG Transparency International, un lobby qui surveille les lobbies. Raphaël est un geek, et à partir des données publiques, il tente de montrer les problèmes d'intégrité et de transparence et de faire évoluer les institutions. Pour rejoindre ses bureaux, je prends un bus sans amortisseur qui parle français, anglais et néerlandais. Je descends à Luxembourg. Transparency International, comme les autres lobbies, a cherché des bureaux le plus près possible de ce qu'on appelle en cours la place luxe, qui se trouve devant le Parlement européen. 8 minutes à pied plus tard, j'arrive dans le lobby d'un immeuble trendy. Il faut scanner son QR code, reculer un peu pour que la tablette vous prenne en photo et lui dire tout fort, à la tablette, le nom de la personne que vous venez rencontrer. La réceptionniste ne sert plus à grand-chose. Elle doit juste expliquer à toutes les personnes pas douées comme moi sur quel bouton appuyer. Et voilà Raphaël.
Un grand open space derrière des vitres.
Voilà. Raphaël aujourd'hui a un poste à Transparency, mais au début il était là comme bénévole. Il est né de parents français, installé aux Pays-Bas. Il y a vécu jusqu'à ses 18 ans et il connaît donc l'hymne néerlandais. Son père travaillait pour l'office des brevets, sa mère donnait notamment des cours de patchwork. À la sortie des études, il a commencé à travailler pour Europe Direct. Il était chargé de répondre par téléphone à n'importe quelle question de citoyen des 27. Et c'est comme ça qu'il est devenu très précis sur la législation européenne.
Comme une entreprise, un lundi matin à 9h du matin, où j'avais même pas bu mon premier café, qui me demande comment l'article 6 du règlement sur les détergents s'applique à sa situation.
Quand ce contrat s'est terminé, il s'est porté volontaire pour Transparency. Il a commencé à analyser les données publiques sur le pantouflage, le fait pour un fonctionnaire de travailler pour une entreprise privée. Aujourd'hui, donc, il travaille à faire évoluer la législation européenne pour qu'un scandale de corruption comme celui du Qatar Gate ne puisse pas se reproduire. Je lui demande où il était à l'époque de la découverte des faits. C'était en décembre 2022.
J'étais en train de regarder un match de foot avec une bière à la main et je reçois un coup de fil de mon patron en me disant « on arrête les matchs de foot, on arrête les bières et on rentre à la maison parce que demain tu vas passer à la télé ». Parce que c'était vraiment un des plus grands scandales de corruption de l'histoire de l'Union européenne, et quand on pense corruption, on pense Transparency International. Et ce qui s'était passé, c'était qu'on avait retrouvé dans la maison d'une des vice-présidentes du Parlement européen des liasses de billets d'argent, et c'était des sommes assez conséquentes. Alors, je n'ai plus les chiffres exacts en tête, mais...
On peut acheter beaucoup de bière.
Voilà, exactement. On peut acheter beaucoup de bière, voire même la fabrique à bière. Donc, ce scandale, en fait, montrait tout un système où le Qatar a essayé d'influencer la prise de décision au sein du Parlement européen, et notamment avec des résolutions qui disaient que, par exemple, le Qatar était un paradis pour les travailleurs, ce qui, évidemment, n'était pas le cas. Et on a vu en fait qu'il y avait toute une défaillance des systèmes qui devraient être en place au sein du Parlement européen pour essayer de se protéger de ce genre de scandales qui n'ont pas fonctionné. Et à ce moment-là, nous, on a lancé la machine pour dire c'est le moment vraiment d'essayer d'avoir une bonne fois pour toutes tous les garde-fous, que ce soit sur l'interaction avec les lobbyistes, avec les pays tiers. Il y a des questions de pantouflage ici aussi, avec maintenant quand même pas mal de vérifications sur ce qui se passe, et ça, ce sont des réformes post-Qatar.
Dans le cadre de ces prochaines élections, Raphaël va pousser pour la création d'une loi européenne transversale qui impose une réglementation minimale pour le lobbying dans tous les pays membres. Parce qu'à ce jour, il n'y a que quelques pays qui ont des registres de transparence, par exemple la France, l'Irlande, la Lituanie et l'Allemagne. Donc même s'il y en a un aussi à Bruxelles, le manque de réglementation dans les pays membres, c'est dangereux pour tous.
On va aussi en informer tous les candidats et essayer d'avoir en fait un accord avec les candidats pour qu'ils se disent « Ok, moi, si jamais je suis élu, je vais pousser pour ce sujet-là. »
Raphaël rêve aussi de la création d'une autorité indépendante européenne, comme celle qu'il y a en France, qui aurait les moyens de faire des enquêtes indépendantes.
Parce que pour le moment, les seuls qui enquêtent vraiment sur les manquements de déontologie, c'est nous. si on peut comparer entre institutions, on peut vraiment dire que c'est le Parlement européen qui a traîné les pieds le plus. Et c'est seulement après un des plus grands scandales de l'histoire de l'Union européenne que finalement on a eu des petites avancées sur ces règles qui sont déjà beaucoup mieux. Mais auparavant, on parlait un petit peu dans le vent.
Est-ce que vous comprenez les réticentes? Ils ne sont pas quand même tous des escrocs?
Non, ils ne sont pas tous des escrocs, mais bon, il y a quand même, des différences culturelles nationales assez fortes. Et il y a des pays où c'est quasiment tout à fait normal de détenir des parts d'action dans telle entreprise, d'être aussi député, c'est quelque chose qui est même presque respecté. Et puis après, il y a peut-être aussi moins de regard des médias sur ce que les députés européens font. Ils sont moins connus au niveau national, donc pourquoi, si on n'a pas le regard, pourquoi se forcer à faire de notre mieux? Mais je pense que c'est une situation qui change beaucoup. Je pense que les gens s'intéressent de plus à la politique européenne. Je pense aussi qu'il y a peut-être une menace ou une pression qui est mise par les forces anti-européennes. Et donc, c'est pour ça qu'il est temps de se réveiller.
Voilà, et Raphaël, avant de partir, m'a montré une étude qu'il vient de finir sur l'argent que se font les députés dans le privé, à côté de leur mandat. Donc, ça va sortir la semaine prochaine sur Transparency, et ça peut peut-être vous aider à faire vos choix pour le 9 juin. D'ici là, deux outils pour surveiller vos parlementaires, TrackMyEU et IntegrityWatch.eu.
Et ben voilà, c'est fait, on met tout ça en ligne sur la page Caroline au pays des 27 sur franceinter.fr. Caroline, merci. À mardi prochain.